Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de l'obésité chez les enfants. Un phénomène en hausse dans le monde entier. Augmentation même spectaculaire, hein, puisque d'après l'OMS, sur les 40 dernières années, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent ont été multipliés par 10. Dans certaines régions, la tendance est carrément inquiétante. Ainsi, plus de la moitié des enfants qui vivent aux États-Unis courent le risque d'être obèses à l'âge de 35 ans si la progression actuelle venait à se confirmer. En France, 25% des moins de 18 ans sont en surpoids et parmi eux, 4% sont obèses. Ce phénomène n'épargne pas l'Afrique puisque sur les 41 millions d'enfants de moins de 5 ans en surpoids, recensés en 2016, près du quart vit sur le continent africain, ce qui représente près de 9 millions d'enfants, avec bien sûr des implications en termes de santé, de développement, d'estime de soi. Au cours de cette émission, nous allons donc parler diagnostic, prévention, prise en charge. Quelles actions doivent être menées pour limiter ce surpoids? Quelles habitudes changer? Quelles sont les conditions à réunir, notamment en termes de motivation? Prévention de l'obésité infantile, priorité pour l'Organisation mondiale de la santé. Pour en parler avec nous en studio, docteur Laurent Fidalgo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, membre du réseau pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en pédiatrie d'Île-de-France et praticien attaché au sein du Grand Hôpital de l'Est francilien, site de Marne-la-Vallée. Tout à l'heure, nous retrouverons au Bénin le docteur Victoire Haguet, médecin nutritionniste, professeur titulaire de santé publique à l'Institut régional de santé publique de Ouida, problématique mondiale avec une illustration en Chine. Reportage de Stéphane Lagarde tout à l'heure. Il s'est rendu à l'hôpital pour enfants de l'Est de Pékin. Et puis nous retrouverons en fin d'émission Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Avec lui, nous verrons comment surpoids et obésité infantile sont désormais associés à la survenue d'un diabète de type 2 de manière plus précoce chez les enfants.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Fidalgo, au cours de cette émission, on va parler d'obésité et de surpoids chez les enfants. Comment on distingue les deux? Bien sûr, quand on parle de surpoids, les chiffres sont excessivement spectaculaires. C'est plus réduit dans certains pays quand on parle d'obésité. C'est quoi la différence, la nuance entre les deux?
La nuance, c'est surtout une nuance de chiffres. Le surpoids, disons chez l'adulte, le surpoids c'est un IMC, un indice de masse corporelle entre 25 et 30, et au-dessus de 30, c'est l'obésité. Et donc pour les enfants, c'est un petit peu particulier. On regarde la courbe de corpulence de l'enfant, on le reporte sur une courbe statistique qui permet de prédire l'IMC à l'âge adulte. Donc un enfant qui serait sur la courbe qui mène un IMC à 30 est considéré, enfin supérieur à 30, est considéré comme un enfant obèse par rapport à la corpulence qu'il devrait avoir à cet âge-là.
Et on parle bien d'enfant obèse, docteur Laurent Fidalgo, pas de bébé, parce qu'il n'est pas question d'obésité avant un certain âge.
Oui, en fait, l'obésité pose un problème, disons, à partir de l'âge de 4-5 ans. Un enfant qui a 2 ans et qui est au-dessus des courbes, surtout par exemple quand il est allaité, ça ne pose pas obligatoirement de problème. Alors, à part un petit critère qui est l'augmentation de la corpulence entre 0 et 1 an. C'est-à-dire qu'on détermine aussi un facteur de risque si l'enfant augmente très rapidement sa corpulence entre 0 et 1 an. Mais bon, ça, c'est vraiment un œil professionnel qui peut détecter ça. Mais voilà, un enfant qui grossit très 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 vite entre 0 et 1 an, ça peut être un facteur prédictif.
Alors, on va beaucoup parler d'âge, d'années chez ces enfants. Justement, ce qui est important, c'est le caractère précoce du diagnostic, se rendre compte assez tôt que l'enfant est en surpoids. Comment justement des parents qui vivent tous les jours avec leurs enfants repèrent des signaux pour dire là, vraiment, il est en train de prendre du poids, là, il faut peut-être agir.
Alors déjà, le premier signal, c'est déjà de prendre en considération la corpulence des parents. C'est-à-dire que deux adultes qui sont eux-mêmes en surpoids ou obèses et qui font un enfant doivent déjà, d'ores et déjà, penser à que leur enfant puisse avoir ce problème aussi, puisque on sait aujourd'hui que l'obésité a un facteur génétique très important. Donc déjà, si deux adultes sont eux-mêmes obèses, ils doivent même à la naissance de l'enfant, même avant la naissance de l'enfant, avoir cette idée en tête. Ensuite, aujourd'hui, on a les moyens de dépister 100% des enfants qui ont un facteur de risque d'obésité avant l'âge de 6 ans. En France, c'est tout simplement en traçant la courbe de corpulence. Il suffit de peser et mesurer l'enfant tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 6 ans et de reporter sa corpulence sur une courbe. Et on peut repérer ce qu'on appelle le rebond précoce d'adiposité, qui est systématique avant 6 ans chez les enfants qui ont des problèmes de poids.
Ça veut dire que cette courbe, elle va en quelque sorte décrocher et s'envoler.
Exactement.
Dans le mauvais sens.
On voit un décrochage précoce avant l'âge de 6 ans, qui est vraiment très visible sur la courbe de corpulence et seulement sur la courbe de corpulence. Tracer la courbe de poids et de taille ne suffit pas pour détecter ce rebond précoce d'adiposité.
Donc c'est bien la différence entre courbe de corpulence là et courbe de croissance.
Voilà, je parle bien de la courbe de corpulence qui est liée à l'indice de masse corporelle.
Alors on parle souvent des conséquences, docteur Laurent Fidalgo, bien sûr de l'obésité chez des adultes. Est-ce que l'on peut parler de risques associés de maladies de façon précoce chez les enfants obèses ?
Alors, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas beaucoup de maladies apparues chez les enfants obèses. On connaît surtout les maladies, quelques rares maladies orthopédiques, en particulier au niveau des hanches. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître un problème de diabète très précoce chez les enfants. Je vois moi maintenant des diabètes de type 2 chez des enfants de 6-7 ans.
On va en reparler tout à l'heure avec Stéphane Besançon au Mali. Mais j'ai lu notamment des choses très concrètes. Quand on est en surpoids, on peut avoir par exemple des frictions ou des lésions cutanées parce que justement il y a frottement, parce que tout simplement on est trop gros.
Oui, tout à fait. Il y a des pathologies qui sont liées au frottement, aussi à la transpiration, à la macération, les mycoses des plis, des douleurs au niveau des genoux, des hanches, chez un enfant qui est très obèse et qui appuie de manière un petit peu inappropriée sur ses articulations.
Et au moment de l'adolescence, des troubles au niveau de la puberté, ça peut arriver aussi ?
Alors, le surpoids et l'obésité ont une influence sur la puberté, mais autant vers une puberté précoce que vers une puberté tardive. Mais ça, évidemment, la graisse étant un réservoir d'hormones, évidemment, plus on a de graisse et plus on peut avoir des problèmes hormonaux.
Alors, on évoque là, bien sûr, les effets physiques, et bien évidemment, l'impact psychologique, lui, n'attend pas le nombre des années, avec notamment ce surpoids qui peut donc avoir ses fortes conséquences en termes de rapport aux autres, docteur Fidalgo. Donc ça veut dire que quand on s'occupe d'enfants en surpoids, on prend toujours en charge ces deux dimensions ?
Principalement, c'est le plus important. Chez un enfant, la complication majeure de son obésité, c'est évidemment une complication sur son estime de soi, sur son rapport aux autres, mais qui peuvent même mener jusqu'à des dépressions profondes ou à des troubles du comportement, et c'est vraiment la priorité de prise en charge. Et surtout, le plus important, lorsqu'un professionnel aborde un enfant qui est obèse, la première chose à faire, c'est de déculpabiliser l'enfant, parce que on n'arrête pas de le culpabiliser dans son entourage. On lui dit que s'il est gros, c'est parce qu'il mange trop. Il faut absolument que le professionnel vraiment casse cette culpabilisation.
Ça veut dire que la consultation est loin, très très loin de se résumer à des prises de taille et de pesée. Hein.
Oui, tout à fait. C'est anecdotique. Le plus important, c'est la prise en charge de l'estime de l'enfant.
Alors, risque donc pour la santé, impact en termes d'estime de soi, tout de suite un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant, c'est celui d'Erine. À 13 ans, cette adolescente mesure 1m56 pour 72 kg. Depuis 2 ans et demi, un nutritionniste psychologue l'aide justement à essayer de réguler son poids.
À l'âge de mes 6 ans, à peu près, j'ai pris du poids parce que mes parents, j'ai appris qu'ils étaient séparés. Bah, j'ai stressé et je pense que j'ai grossi d'un coup comme ça. Je suis devenue boulimique. Enfin, au début, plus je devais devenir anorexique puisque je m'alimentais pratiquement pas. Et puis après, bah, je me nourrissais avec des gâteaux, du chocolat, des bonbons, tout ce qui est mauvais, quoi. Donc, forcément, c'est pas bon. C'était très, très, très compliqué à gérer parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, j'ai grossi d'un coup comme ça et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur mes photos de classe que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup grossi d'un coup comme ça et c'est pas drôle du tout.
Et est-ce que tu as vu un médecin pour prendre en charge ton problème de surpoids?
Oui, j'ai beaucoup ressenti un mal-être en moi parce que je me reconnaissais pas. Dans le miroir, je me regardais, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas moi. Puis il y a eu des nouveaux mots aussi de mes camarades comme la grosse, la baleine, la vache, enfin tous les mots qui sont blessants. J'avais du mal avec le regard des autres, je pleurais tout le temps, je faisais des crises de nerfs tout le temps et c'est vrai que je devenais méchante par rapport à ça avec mes proches. Ma mère l'a très mal pris, mon surpoids d'un coup. C'est vrai que ça a été compliqué pour elle de me voir grossir comme ça. Une fois que j'ai grandi, je me suis exprimée, je leur ai dit tout ce que je pensais et je leur ai dit j'en ai marre de ressembler à une grosse, clairement, parce que pour moi je me vois comme ça. Par exemple, mes amis qui pouvaient mettre certaines choses que moi je pouvais pas mettre parce qu'on voyait trop mon ventre. La première fois que j'ai fait les magasins avec une copine, je la voyais, elle prenait des choses que je voulais prendre moi mais ça m'allait pas parce que ça me boudinait ou ça me faisait trop grosse et ça me faisait du mal parce qu'elle, ça lui faisait un beau corps et pas moi. Et c'est vrai que là j'étais petite, j'avais peur de mes parents et de leur réaction, donc je n'osais pas leur dire, mais après j'ai su leur dire et maintenant ça va mieux, mais ouais, c'était compliqué.
Et donc c'est à ce moment-là que tu as demandé à voir un spécialiste ?
Oui, c'est ça, c'est là que je me suis dit, bah Irine, reprends-toi, quoi, c'est plus possible, je vais finir avec 100 kilos. Alors moi, il me conseille moins de féculents le soir, pas en grande quantité, il faut que je réduise mes quantités et que je me concentre et que je fasse plus de sport, voilà, que je me concentre plus sur moi-même que sur les autres, quoi. Quand j'ai des coups de stress, c'est vrai que, par exemple, quand j'apprends une mauvaise nouvelle ou quand j'ai passé une mauvaise journée, quand j'arrive chez moi, j'ai besoin de chocolat, de bonbons, de gâteaux, quelque chose qui peut me faire arrêter de penser de ce que j'ai vécu cette journée-là. Je vois toujours le regard des autres et c'est ça qui me détruit, en fait. Il y a un moment donné où je changeais de tenue pratiquement dans la matinée. Je me levais hyper tôt parce que je savais pas quoi faire, quoi. Pour moi, toutes les tenues n'allaient pas.
Et quel est ton ressenti au niveau de ta santé? Est-ce que tu as senti des problèmes de santé se développer à partir du moment où tu as pris un peu de poids?
Oui, c'est vrai que oui. Ça a été, par exemple, j'ai commencé à faire un petit peu d'asthme, enfin, de l'asthme entre guillemets, c'est-à-dire que dès que je faisais un petit peu d'effort, je le sens encore, hein. C'était pire avant, mais je faisais même pas 100 mètres, j'étais essoufflée, j'étais rouge, je commençais à avoir des bouffées de chaleur, j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait, c'était compliqué. C'est vrai qu'avant, en fait, comme j'étais beaucoup plus petite et que j'étais par rapport beaucoup plus en surpoids que maintenant, j'étais beaucoup plus bouboule, et c'était vraiment horrible pour moi. Quand on faisait des courses, j'arrivais vraiment toujours dans les dernières.
Et comment tu gères le regard des autres?
Je le gère très mal. Très 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 mal. C'est vrai que je mets jamais de robe, donc ça fait mal parce que c'est vrai que je me dis mais au final je peux même pas m'habiller comme je veux. C'est vrai que j'ai des amis en or qui me soutiennent et elles me disent Erin, allez, mets une robe, fais-nous plaisir et elles m'ont dit mais non, t'es très bien, tout va bien, t'inquiète pas. Et ça, c'est ça qui me rend forte, encore plus forte que je ne le suis, c'est que j'ai des amis qui me soutiennent et qui sont pas là à me juger. Moi, je pense qu'il faut juste garder confiance en soi et un jour ou l'autre, ça paiera et on sera comme tout le monde.
Erin, une jeune fille que vous connaissez, hein, que vous suivez, docteur Laurent Fidalgo, mélange de souffrance, d'espoir, mais en tout cas un discours très structuré. Tout ça, c'est beaucoup de travail pour elle et pour les médecins qui la suivent.
Oui, dans la plupart des cas, et dans le cas d'Erin, le plus important, c'était de déculpabiliser cette jeune fille à qui on disait toujours, voilà, vous voyez, elle a des mots qui sont très durs, hein, qu'on traitait de vache, et toujours, c'est toujours associé à une idée de si t'es grosse, c'est parce que tu manges trop et c'est parce que tu fais pas assez de sport. Enfin, il y a toujours un discours très culpabilisant.
Et puis ce regard de dégoût, hein, de la société par rapport aux personnes de forte corpulence, dans nos sociétés du Nord, on regarde souvent les gros avec une association d'adjectifs absolument dévalorisants, absolument culpabilisants.
Comme tout ce qui est qui a trait à la différence, en
fait. Hors norme.
Et voilà, c'est hors norme ou hors majorité, en fait. Hein. Les différences sont toujours très mal vécues par la majorité.
Mais quand on prend en charge une jeune fille comme Erin, on va lui demander de changer malgré tout des choses en termes d'alimentation. Comment ça se passe?
Non, en fait, la première chose à faire, c'est d'écouter l'enfant ou l'adolescent pour justement essayer de comprendre ce qu'elle l'explique très bien. C'est quand elle, plus elle était mal et plus elle mangeait. Donc, ça sert à rien de dire à une jeune fille dans cette souffrance, de dire il faut que tu manges moins, il faut faire ci, il faut faire ça. Le plus important, c'est de déculpabiliser, de comprendre les sources des angoisses ou de ces grignotages ou de ces compulsions alimentaires et d'entraîner de fait la modification naturelle du comportement. Donc ce ne sont pas des conseils diététiques qu'on donne à ce moment-là, mais vraiment une compréhension, essayer de rassurer la jeune fille, d'essayer de lui faire prendre conscience. Vous voyez qu'elle a une maturité en plus largement supérieure à la moyenne, et elle a bien compris certaines choses, et elle a bien analysé certaines choses, et elle sait maintenant, aujourd'hui, elle sait ce qui la pousse à manger et ce qui fait qu'elle ne peut pas se contrôler.
Est-ce que vous considérez cette maladie, l'obésité, comme une maladie chronique? Ça veut dire qu'on a toujours au-dessus de soi la menace de regrossir dans des proportions qui peuvent mettre notre santé en danger, parce que c'est bien de ça dont il est question. Finalement, être gros, si le corps le supporte bien, ça ne pose pas de problème. C'est quand ça met le corps en danger.
Voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de dire que l'obésité est une maladie. Ce sont les conséquences de l'obésité qui sont des maladies. L'obésité, enfin le surpoids, on va dire en général, c'est sûr que l'obésité, à certains points, donne des problèmes de santé, mais le surpoids en lui-même, non. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la facilité à prendre du poids, la capacité à prendre des réserves, c'est une prédisposition génétique. Donc c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et donc c'est pour ça qu'il est important de réussir à obtenir ce mode de vie qui va permettre d'éviter de faire ses réserves tout au long de la vie.
Une prédisposition génétique dans un contexte, docteur Fidalgo, social, géographique. Est-ce qu'aujourd'hui la tendance est planétaire ou est-ce qu'il y a encore des pays épargnés?
Je pense qu'effectivement cette mondialisation du mode de vie, du mode de consommation va faire que même dans les coins les plus reculés, à un moment donné, cette inadaptation de la génétique avec le mode de vie va entraîner ce genre de problème. Et on le voit bien, hein, c'est très souvent dans les pays à développement économique très important, l'import de tout ce qui est consommation junk food, boissons sucrées, etc., qui apporte l'excès le déséquilibre entre la génétique et l'environnemental.
Alors justement, illustration pour ça, on va partir tout de suite pour la Chine. Hein, la Chine, où près d'un enfant sur cinq est en surpoids ou obèse, d'après la toute dernière étude publiée par la revue The Lancet. Et à Pékin, ce reportage de Stéphane Lagarde avec Wu Ranehou.
Quel âge a votre enfant?
2 ans et 5 mois.
Sur les courbes de croissance de la taille et du poids de votre enfant, nous voyons qu'il est en surpoids. Je voudrais vous poser quelques questions sur son alimentation. Les plats, la fréquence des repas.
Des enfants en surpoids et des parents aux abois. Le docteur Zhao Dongmen envoie tous les jours à l'hôpital pour enfants de l'Est de Pékin. La mondialisation du pays s'est accélérée depuis les années 90, explique le médecin nutritionniste. Avec la hausse des revenus, la vie des Chinois a changé, à commencer par le contenu des bols et des assiettes. Docteur Zhao.
La vie s'est améliorée en Chine ces dernières années et la structure de l'alimentation a changé. Avant, les Chinois ne mangeaient de la viande que pour les grandes occasions. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Et puis, on a vu arriver les plats occidentaux. Les modes de vie ont changé aussi. Vous avez vu la circulation à Pékin? Les parents conduisent leurs enfants à l'école. Les enfants ne marchent plus. Avant, on pédalait. Aujourd'hui, c'est rare que des enfants fassent du vélo, sans parler des téléphones portables. Les jeunes passent beaucoup trop de temps à jouer sur leur téléphone, du temps qu'ils ne consacrent plus à jouer à l'extérieur.
La dépense physique engloutit l'effort avalé par les écrans, tandis que l'appétit pour la malbouffe va croissant. C'est aussi le triste constat que fait Zhang Yi. Cette jeune maman travaille dans le marketing, sa fille est en surpoids. Elle connaît d'autres enfants dans le même cas.
Beaucoup d'enfants que je connais sont obèses. Mon neveu, par exemple, comme beaucoup de jeunes, il a beaucoup de pression pour réussir ses études. Il y en a beaucoup comme ça. Et comme la vie est meilleure aujourd'hui, on leur accorde tout. Il n'y a plus de contraintes. Les repas traditionnels disparaissent, les enfants mangent ce qu'ils veulent, on leur cède tout. Et évidemment, ils préfèrent les jeux vidéo au sport. La pression des études, le changement des modes de vie. Ma fille ne bouge pas assez, probablement. Et comme on travaille, ce sont les grands-parents qui s'en occupent. C'est pareil pour mon neveu.
Pour l'étude publiée dans le Lancet, les chercheurs se sont basés sur les données de plus de 1 million de jeunes chinois âgée de 7 à 18 ans, entre 1995 et 2014. L'obésité infantile gagne du terrain en Chine alors que les pourcentages des personnes en surpoids parmi les anciennes générations sont parmi les plus bas au monde. Ce sont pourtant ces dernières qui élèvent les enfants. Docteur Zhao.
Les jeunes parents ont tout à fait conscience des dangers de l'obésité. Ce sont les anciennes générations qui posent problème. En Chine, ce sont souvent les grands-parents qui s'occupent des plus jeunes. Et la plupart d'entre eux considèrent qu'il vaut mieux avoir un enfant bien en chair plutôt qu'un enfant mince. Pour eux, c'est un signe de bonne santé. Heureusement, les choses sont en train de changer avec les campagnes d'information du gouvernement. Depuis 2016, le ministère de l'Éducation recommande des menus moins gras, moins riches en sucre dans les cantines. Et les jeunes doivent faire au moins une heure d'activité physique par jour.
Dans le hall de l'hôpital, une biche rose près d'un arbre vert, des étoiles, des petits nuages bleu pâle sur les murs et sur les portes des ascenseurs, des vagues et des dauphins. Pour la santé, on aurait probablement mieux fait de prendre les escaliers. Deuxième étage, celui de la médecine traditionnelle. Jean Rongrué, acupuncteur.
Les traitements traditionnels viennent en complément de la médecine moderne. Ils favorisent la circulation sanguine et l'oxygénation des tissus. Les enfants en surpoids ont parfois des problèmes d'estomac. L'acupuncture permet de relancer les fonctions du corps qui sont affaiblies. On utilise aussi les massages. Souvent, l'obésité est liée à des problèmes de sommeil. On essaye de rééquilibrer l'énergie de l'enfant.
Et une épidémie d'obésité dans les grandes villes qui n'épargne pas le monde rural. Selon une étude publiée il y a 2 ans sur la province orientale du Shandong, les garçons seraient plus touchés que les filles, les ressources familiales dans les campagnes allant davantage à ces derniers. Stéphane Lagarde, Wurano, Pékin, RFI.
Alors on l'entend aussi en Chine, hein, le duo infernal, sédentarité, malbouffe, on parle de cette obésité chez les enfants dans Priorité Santé. Docteur Fidalgo, le rôle des parents dans tout ça, ce rôle, il est essentiel. Il y a bien sûr l'éducation générale, l'éducation alimentaire, l'éducation comportementale. Par exemple, cuisiner soi-même, c'est essentiel quand justement on veut reprendre de bonnes habitudes alimentaires?
Alors, pas obligatoirement, parce que ça dépend comment on cuisine. Je pense que là, par rapport au reportage qu'on vient d'entendre, ce qui est important, c'est de rester effectivement le plus proche possible de la nature traditionnelle de l'alimentation. Plus on va changer l'alimentation d'un peuple, et plus effectivement on va déséquilibrer les rapports. Donc, cuisiner, oui, ça dépend comment, ça dépend... et puis tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui, de plus en plus...
Avec le temps qui manque.
Le temps dédié à la cuisine diminue de plus en plus, donc c'est pas toujours facile. Là où il faut effectivement éviter de tomber, c'est dans le piège de l'alimentation industrielle, hein, l'industrialisation des plats. Ça, effectivement, ça donne un apport en sucre et en gras trop important.
On n'est pas forcé de cuisiner pendant beaucoup de temps, mais de prendre au moins des bases alimentaires brutes, voilà.
Simple avec des produits naturels et le plus proche possible de l'alimentation traditionnelle de la personne.
Alors, cette illustration en Chine, tout à l'heure, on aura un coup de projecteur sur le Bénin. Tout de suite, si vous le voulez bien, docteur Laurent Fidalgo, on donne la parole à un auditeur de Priorité Santé.
RFI.
Et en ligne de Guinée, de Conakry précisément, oui, nous avons Ousmane. Bonjour Ousmane.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Fidalgo.
On vous écoute Ousmane.
Bon, je voudrais vous parler d'un problème qui me tient particulièrement à cœur.
Mm-hmm.
Il s'agit de l'obésité qui touche près de 70% de ma famille. Le constat est fait depuis mon grand-père qui était lui-même obèse et est décédé aux environs de 70 ans. Puis mon père qui a été aussi obèse est décédé à la même tranche d'âge. Maintenant, nous constatons la même obésité chez nous, les enfants et petits-enfants. Nous pratiquons du sport. Moi, par exemple, j'ai 1 à 2 heures du sport par semaine. Nous avons suivi des régimes amaigrissants, mais la situation est restée la même. Tout ceci me stresse énormément et m'amène à poser certaines questions. Cette obésité est-elle héréditaire? Y a-t-il des moyens pour lutter contre l'obésité quand on est soi-même obèse? Cette obésité peut-elle expliquer les décès de mon grand-père et de mon père à la même tranche d'âge?
Alors, je vais donner.
Je profite pour cette occasion pour faire un coucou à ma chère très maman, ma famille Kadir Gambo depuis Kousseri, Cameroun, mes amis et frères Mohamed, Mohamed Tom, Diaoussa Mohamed Barunka, Marc Adinkai, sénateur David.
Grande famille Ousmane, je m'excuse, je vais vous couper parce que on va d'abord répondre à vos questions si vous le voulez bien. J'ai juste une question personnelle à vous poser avant de donner la parole au docteur Laurent Fidalgo Ousmane. Vous dites, j'ai suivi des régimes. Qui avait décidé de ces régimes? Est-ce que c'était un médecin ou est-ce que c'est par vous-même que vous avez éliminé certains aliments, que vous avez changé votre façon de manger?
En fait, c'est par moi-même.
Et vous aviez éliminé quoi?
Bon, j'ai éliminé l'huile que je consommais beaucoup plus.
Mais vous rajoutiez de l'huile dans vos aliments en plus de l'huile utilisée pour faire cuire, par exemple, les ragoûts, la viande?
Oui, oui. J'ai éliminé également la viande.
Complètement. À un moment donné, vous avez retiré toute viande de votre alimentation?
Oui, oui.
Mais quand vous faisiez ça, vous deviez avoir envie quand même de manger comme avant. Cette viande,
bien
ces
sûr.
Plats devaient vous manquer. Et est-ce que toute la famille le faisait ou vous étiez tout seul à retirer ces aliments de votre nourriture?
Bon, moi et certains quand même de ma famille.
Donc à côté, vous aviez quand même les plats qui vous faisaient envie sans arrêt sous le nez?
Bien sûr, oui.
Donc maintenant, je donne la parole au docteur Laurent Fidalgo sur ces questions. Première question d'Ousmane, sur le caractère héréditaire, hein, c'est ce qu'il a constaté dans sa famille?
Oui, bien sûr, là, c'est dans le cas de cette famille, c'est évident. Héréditaire, en tout cas génétique, il y a un déterminant génétique et épigénétique très important, et ce n'est pas un hasard si la moitié de la famille d'Ousmane a cette facilité à prendre des réserves. Ousmane, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui a rendu obèses les membres de votre famille, il faut bien comprendre que c'est lié à une facilité génétique à faire des réserves, et en particulier en situation de crise ou de famine. C'est-à-dire que vous faites partie, comme moi, de la population des deux... Il y a deux types de populations sur Terre. Il y a ce que j'appelle souvent les cigales et les fourmis. Nous, on fait partie des gens qui savons faire des réserves mieux que les autres, et en situation de crise, on fait encore mieux des réserves. Et la première erreur qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire, Ousmane, c'est de changer... de manière provisoire votre alimentation. Si vous faites des régimes et que vous diminuez de manière trop importante vos apports énergétiques, vous allez mettre votre corps en situation de défense. Et votre corps se battra contre ce régime et vous fera rattraper obligatoirement tous les kilos que vous aurez perdus sous forme d'un régime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous devez modifier votre alimentation, il faut la modifier de manière durable et donc ne pas la faire de manière drastique, c'est-à-dire supprimer la viande de votre alimentation, ce n'est pas une bonne idée. Alors, si vous en consommiez trop avant, vous pouvez diminuer la consommation. Si vous consommiez trop d'huile avant, vous pouvez diminuer la consommation d'huile. Mais ne supprimez pas les aliments, faites juste des modifications durables de votre alimentation.
Pas de changement radical qui, après, justement, ne tiendra pas sur la durée,
voilà,
de toute façon.
Voilà, en tout cas, voilà, tout ce qui est modification provisoire de l'alimentation ne donnera des effets que provisoires, et souvent même encore plus délétères. Aujourd'hui, mais des millions de personnes peuvent vous dire qu'à chaque fois qu'ils ont fait un régime, ils ont repris plus de poids qu'ils ont perdu. Mais c'est ça, c'est physiologique. Le corps se bat contre ces famines.
Question d'Ousmane, son père, son grand-père, tous les deux étaient en surpoids, étaient obèses. Tous les deux sont décédés à l'âge de 70 ans. Donc, il se pose la question, est-ce qu'il y a une sorte de fatalité de cet âge ou est-ce qu'on peut répondre à cette question? Ça paraît un peu compliqué.
Il n'y a pas de rapport direct. Maintenant, ça dépend aussi des maladies associées. Si les deux avaient développé des maladies cardiovasculaires ou du diabète ou de l'hypercholestérolémie, il n'y a pas de rapport direct entre, évidemment, la corpulence et l'âge de décès.
En tout cas, le conseil qu'on peut donner à Ousmane, s'il veut perdre du poids, c'est d'y aller très progressivement, avec beaucoup de rationalité, y aller étape par étape.
Voilà, de manière progressive et surtout sans créer de frustration et de manque. Ça, c'est important. La frustration et le manque provoquera toujours le rattrapage secondaire.
Et toujours, hein, Ousmane, puisque vous le dites, vous avez une activité physique, continuez cela parce que c'est aussi dans les bons conseils pour essayer de limiter le surpoids.
D'accord.
Vous pouvez peut-être même un petit peu augmenter votre activité physique. Si vous êtes à 2 heures par semaine, vous pouvez essayer de trouver quelques moyens. Augmenter son activité physique, parfois, c'est juste augmenter son temps de marche. Si de temps en temps, vous pouvez marcher une demi-heure dans la journée à un pas un petit peu soutenu, ça suffit largement pour augmenter votre activité physique.
Voilà pour ces conseils, Ousmane. Très bonne journée à vous à Conakry. On a un message Facebook d'Antoine qui est en République démocratique du Congo. Il a 2 enfants qui étaient en surpoids. Aujourd'hui, ils sont déjà grands, hein, 18 et 22 ans. En tout cas, à l'adolescence, ils se sont mis à prendre du poids. Pour l'un d'eux, ça s'est réglé. L'aîné a perdu un peu de poids, mais pas le second. Et il dit que son médecin, à l'époque, lui avait conseillé de ne pas manger au-delà de 18 heures. Bien sûr, de faire de l'exercice, d'éviter de ce qui est gras. Pour ce qui en est de cette heure du dernier repas, plutôt, c'est ce genre de conseil, vous le donnez ou pas du tout?
Non, pas du tout, parce que d'une part, il n'y a aucune étude sérieuse qui permet de dire que de ne plus manger après 18 heures permet de moins grossir. D'autre part, parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des personnes, en particulier des gens qui rentrent tard le soir du travail, qui rentrent à 19h, 19h30, on peut pas leur dire de ne pas manger en rentrant du travail. De toute façon, je suis généralement contre ce genre de règles, de dictates.
Affamé. Justement, cette sensation de faim, est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'on arrive à la réguler? Parce que aussi, il y a des gens, leur corps n'a pas forcément besoin de nourriture, mais ils ont l'impression d'avoir faim, docteur Fidalgo. Comment on peut leur dire, ben là, non, tu n'as pas vraiment besoin de manger à ce moment-là?
Alors, déjà, il faut déjà faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Et parfois, d'apprendre à la personne de reconnaître ce qu'est la faim et ce qu'est l'envie de manger, ça permet de se dire, bon voilà, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que, peut-être que si j'ai pas mangé ce midi, c'est normal que j'ai faim ce soir. Mais est-ce que si j'ai bien déjeuné ce midi, si j'ai bien dîné ce soir, et qu'à 22h, j'ai cette envie de manger qui apparaît, je peux, ne serait-ce que par la réflexion, de me dire, ah ben non, en fait, je n'ai pas faim, j'ai juste envie de manger. Mais parfois, ça peut être de la faim. Vous savez, moi, je dis souvent que... Les gens ne grossissent pas parce qu'ils ont plus faim, c'est parce qu'ils ont plus faim qu'ils grossissent. C'est-à-dire que leur génétique va avoir tendance à leur faire manger plus. C'est un petit peu comme Astérix et Obélix. Hein. Astérix, lui, mange sa cuisse de sanglier. Obélix, il a besoin de manger
du sanglier entier. Voilà. On part tout de suite pour le Bénin. On va voir comment ça se passe du côté de Ouida.
RFI.
En ligne, docteur Victoire Aguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, professeur titulaire de santé publique à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida. Docteur Aguet, est-ce que vous avez des chiffres, des indications sur la fréquence, la prévalence de l'obésité au Bénin?
Chez les enfants.
Chez les enfants, oui. Particulièrement, oui.
Oui, chez les enfants de moins de 6 ans, la prévalence est autour de 2%. Selon une dernière enquête qui s'est signée en 2018. Chez les enfants de 6 à 12 ans, les enfants d'âge scolaire, cette prévalence est autour de 5%. Et chez les enfants plus âgés, c'est-à-dire de 12 à 19 ans, elle aussi entre 10 et 16%.
Docteur Aguet, on va vous reprendre tout de suite en ligne, mais on va raccrocher, faire le petit effort de recomposer le numéro pour vraiment essayer d'avoir une meilleure ligne et de mieux vous entendre. Je me tourne vers vous, docteur Laurent Fidalgo. L'allaitement maternel, ça fait partie des mesures de prévention de l'obésité, du moins c'est ce que j'ai pu lire. Pourquoi?
Oui. Alors, pourquoi exactement ça peut être difficile d'être catégorique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lait maternel sera, comme on disait tout à l'heure, sûrement plus naturel que des laits reconstitués. Il y a probablement dans le lait maternel des facteurs, des hormones, des éléments qui vont aller faire exprimer plus ou moins certains gènes. On sait aussi, par exemple, que le lait maternel apporte aussi la flore intestinale de l'enfant, et on sait aujourd'hui maintenant que le microbiote intestinal joue énormément dans les problèmes de poids et de diabète. Donc, toutes les études concourent à montrer que l'allaitement le plus long possible, en tout cas à plus de 6 mois d'allaitement maternel, protège l'enfant de l'obésité, mais pas que. Il n'y a pas que ça, mais ça protège.
Alors, parmi les autres actions possibles, bien sûr, quand on ne parle pas
ni des deux grands points, c'est-à-dire l'alimentation et l'activité physique. Il y a le rééquilibrage des rythmes de vie, notamment travailler sur le sommeil. C'est également quelque chose que vous faites en consultation ?
Oui, complètement, tout à fait. Surtout chez les enfants et les adolescents en particulier, qui passent beaucoup de temps sur leurs écrans et sur leur téléphone et qui s'endorment avec le téléphone en face des yeux. C'est maintenant, toutes les études aussi montrent que moins un enfant dort et plus il aura facilité à grossir. Et ça fait partie du travail. Et, alors c'est difficile parce que convaincre un adolescent de poser son téléphone une heure avant d'aller se coucher, c'est pas toujours facile.
C'est peut-être des fois aussi compliqué que suivre certaines restrictions alimentaires. Justement, par rapport à ce rythme de vie, ça veut dire qu'il y a le métabolisme qui entre en jeu durant le sommeil. On traite différemment les informations, l'alimentation quand on dort. Il y a la digestion, mais il y a aussi l'assimilation. Comment ça se passe ?
C'est pas tant ce qui se passe pendant le sommeil et par rapport à l'alimentation qui est important, c'est par rapport à la production des hormones. On sait que le cortisol, qui est une hormone fabriquée par les surrénales, sa sécrétion dépend énormément des temps de sommeil. Donc ce n'est pas la digestion des aliments pendant le sommeil qui va jouer, mais c'est la fabrication des hormones qui vont concourir après à brûler l'énergie.
Alors, on retourne au Bénin. On espère cette fois que la ligne sera meilleure pour vous retrouver, docteur Victoire Aguet, médecin nutritionniste. Donc, on avait parlé de ces chiffres aux différents âges, prévalence de l'obésité dans votre pays, le Bénin. Je voulais vous demander, docteur Aguet, est-ce que les parents béninois viennent facilement consulter pour justement ces questions de surpoids de leurs enfants ?
Pas du tout. Pas du tout. Généralement, bon, le surpoids est considéré comme pratiquement normal. Et c'est plutôt l'obésité à un niveau élevé qui commence à devenir.
La ligne n'est pas très bonne. Je vais quand même persévérer. Est-ce qu'il y a un vrai problème de perception, justement, d'après vous, au sein de la société béninoise ? Est-ce qu'il y a un gros travail à faire au niveau, on va dire, en quelque sorte, de l'éducation des parents, de l'éducation de la société ?
Oui, personnellement, je crois qu'il y a, un travail vraiment de sensibilisation, de conscientisation à faire. Parce que chez nous, la notion de surpoids est pratiquement normale.
Donc on considère que quand l'enfant est bien en chair, c'est plutôt un signe de bonne santé. Justement, quel message vous faites passer pour dire attention, là, ce n'est pas simplement un enfant qui est beau, qui est dodu, mais c'est véritablement un enfant sur lequel il faut agir au niveau de ses habitudes de vie, de ses habitudes alimentaires.
Oui, c'est quand généralement nous recevons les enfants en consultation d'enfants sains, qu'on dépiste le surpoids et qu'on prend les parents en charge. Et d'une façon générale, le message que nous faisons passer, un enfant joufflu de vie n'est pas forcément un enfant en bonne santé. Et nous conseillons aux parents d'avoir l'avis du pédiatre avant d'être rassuré que leur enfant se porte bien.
Merci beaucoup, docteur Victoire Aguet. Hélas, on va vous rendre votre ligne téléphonique parce que c'est trop mauvais. On n'entend pas suffisamment bien vos explications. On a bien compris votre message. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, professeur titulaire de santé publique à l'Institut régional de santé publique de Ouidah. Intéressant ce que vient de dire docteur Victoire Aguet. Quand on prend en charge les parents et pas les enfants, c'est quelque chose vraiment d'important. En consultation, bien sûr, il y a l'enfant qui va parler, il y a l'enfant avec qui vous allez vous entretenir, écouter, mais il y a aussi les parents, et c'est peut-être là qu'il y a le levier essentiel, non ?
À partir de... jusqu'à ce que l'enfant puisse acquérir une autonomie sur son alimentation, évidemment, c'est sur les parents qu'il faut jouer. Et le plus tôt possible, comme je vous disais tout à l'heure, plus les parents seront sensibilisés sur le risque de leur enfant à devenir obèse, et plus ils doivent avoir une attention particulière sur l'alimentation de leur enfant. En particulier, tout ce qui est la diversification alimentaire et la consommation des fruits et des légumes. Moi, j'entends encore beaucoup de parents qui disent que leur enfant de 5 ans ne mange que des féculents, du pain, de la viande et très peu de végétaux. Des pâtes et du jambon. Donc ça, après, c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire le plus tôt possible pour éviter d'avoir ces problèmes. Après, à partir de l'âge où l'enfant commence à être un peu préadolescent, c'est avec lui qu'il faut travailler, mais le plus tôt possible et avec les parents.
Alors justement, on a bien compris la double incidence, hein, physique et psychique du surpoids. Est-ce que ça justifie forcément une approche multidisciplinaire passée par vous, donc spécialiste, docteur Laurent Fidalgo, nutritionniste, mais aussi la prise en charge psychologique à côté, où tout doit être où on peut aussi avoir simplement la consultation d'un seul médecin qui va intégrer cette double dimension à la fois psychique et physique.
Alors, je pense que tout professionnel qui aborde ce problème de nutrition doit avoir évidemment conscience du côté psychologique de cet enjeu, mais le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire est un atout supplémentaire, et c'est ce qu'on défend au REPOP, au réseau pour la prise en charge de l'obésité pédiatrique, c'est de vraiment créer une équipe pluridisciplinaire autour de l'enfant et de sa famille.
Avec quelle spécialité alors ?
Avec en particulier une diététicienne et des psychologues. Donc c'est le trépied que l'on forme au REPOP, c'est un médecin, une diététicienne et une psychologue, c'est un minimum, c'est une équipe. Après, il peut y avoir des éducateurs sportifs, il peut y avoir des éducateurs, il y a tout professionnel qui peut encourager l'enfant à modifier son comportement sera le bienvenu.
Alors tout à l'heure, en abordant les diverses complications, on a rapidement cité cet impact sur le métabolisme, le diabète. On retrouve tout de suite en ligne de Bamako Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Nutritionniste, bien sûr, les auditeurs le savent bien, directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Stéphane, est-ce que la forte augmentation de l'obésité chez les enfants se traduit donc par cette hausse des cas de diabète de type 2, hein, du diabète précoce ?
Alors, pour commencer, il est très important de bien préciser que l'on va parler de diabète de type 2 chez l'enfant. Car classiquement, le diabète se définissait par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès permanent de sucre dans le sang, et se présentait sous deux grandes formes. Le diabète de type 1, qui représentait 10% des personnes atteintes de diabète, et qui était défini comme le diabète touchant l'enfant et les jeunes adultes, c'est-à-dire les adolescents. Et il y avait le diabète de type 2, qui représentait 90% des personnes atteintes de diabète et qui touchait plus particulièrement les adultes de plus de 45 ans, sédentaires et en surpoids. Mais cette présentation a effectivement changé, car on constate partout dans le monde, depuis un peu plus d'une décennie, une forte augmentation du diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent, qui est fortement corrélée à l'augmentation du surpoids et de l'obésité infantile. Et par exemple, une étude menée au Canada estime aujourd'hui que 8% des nouveaux cas de diabète de type 2 sont diagnostiqués chez des enfants de moins de 10 ans.
Est-ce que ça veut dire pour autant, Stéphane, qu'il faut dépister le diabète de type 2 chez tous les enfants en surpoids ou obèses ?
Alors, ce qui est important, c'est de bien se rappeler que le déclenchement du diabète de type 1 chez l'enfant est très rapide, avec une montée très forte de la glycémie, qui va entraîner des symptômes très visibles, une perte de poids massive, des enfants qui vont boire énormément, 3, 4, 5 litres par jour, et uriner très fréquemment, 8, 10 fois par jour, voire plus. Par contre, chez l'adulte, le diabète de type 2, et chez l'enfant c'est la même chose, va présenter un démarrage qui est silencieux, avec une hyperglycémie qui va s'installer progressivement dans le temps, et donc par conséquent des symptômes beaucoup moins visibles. Il est donc recommandé de réaliser un dépistage qui va cibler par une mesure de la glycémie, ce dépistage, hein, bien sûr, tous les deux ans, les enfants et les adolescents qui présentent au moins 3 facteurs de risque avant la puberté et au moins 2 facteurs de risque après la puberté. Alors, ces facteurs de risque, c'est quoi ? C'est la présence d'une obésité, des antécédents de diabète de type 2 dans la famille, une exposition au diabète gestationnel durant la grossesse de la maman, quand le fœtus a été soumis à un diabète gestationnel, et enfin, des premiers signes de dérèglement de la glycémie, ce qu'on appelle l'intolérance au glucose.
Alors maintenant, si on regarde du côté de la prévention de ce diabète, Stéphane, comment justement améliorer, favoriser cette prévention et comment le prendre en charge ?
Alors pour la prise en charge, on l'a dit, le principal facteur de risque pour le diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent, c'est l'obésité. Donc la prévention, ça va être d'abord d'éviter absolument la survenue de cette obésité chez l'enfant, et si bien sûr cette obésité est installée, travailler sur la réduction de l'obésité, comme nous l'a dit l'invité tout au long de l'émission. Pour la prise en charge maintenant, il faut se rappeler là aussi la différence avec le diabète de type 1 qui était généralement le diabète de l'enfant. Et dans ce diabète qui nécessitait obligatoirement de l'insuline, là il n'y a pas le choix, c'est que de l'insuline, c'est la pierre angulaire du traitement. Or, aujourd'hui, dans le diabète de type 2, qui est lié à une obésité ou un surpoids, la pierre angulaire du traitement, ça va être d'abord les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire la modification de l'alimentation et de l'activité physique pour permettre de traiter à la fois le diabète et le surpoids et l'obésité qui l'accompagnent. Il faudra donc promouvoir une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique adaptée et régulière, et bien sûr, comme on parle de l'enfant, impliquer très fortement la famille pour accompagner l'enfant au quotidien dans ses changements de mode de vie. Et c'est à ce point-là, si la glycémie n'est pas régulière avec ces mesures, qu'il faudra en complément adopter un traitement médicamenteux. Et pour le diabète de type 2 pédiatrique chez l'enfant, aujourd'hui, l'insuline reste le traitement le plus utilisé, car pour cette population, il n'y a qu'un seul traitement antidiabétique oral qui est autorisé à partir de 10 ans, la metformine.
Alors forcément, on a l'image, quand on parle du diabète de type 2, d'augmentation de l'obésité infantile, on pense souvent au Nord, aux pays développés, mais ce n'est pas forcément la réalité. Alors quelle est la situation précisément, Stéphane, pour le continent africain ?
Alors, comme le rappelle le dernier Global Nutrition Report, qui est un rapport international annuel, il y a 38,3 millions, soit 5,6% des enfants dans le monde qui souffrent d'obésité. Et l'Afrique n'est pas épargnée, puisque dans la tranche d'âge 10 à 19 ans, on a déjà 3,9% des filles et 2,5% des garçons qui sont obèses. On parle déjà donc de millions de personnes touchées. Et dans notre expérience clinique au Mali ou dans les différents pays d'Afrique où l'on travaille, on voit là aussi apparaître du diabète de type 2 chez l'enfant en lien direct avec ce surpoids et cette obésité. Dans une population où il y a encore quelques années, nous avions que des patients atteints de diabète de type 1. Et sur le continent africain, il faut le dire et le redire, si les pouvoirs publics ne prennent pas des mesures rapides contre le surpoids et l'obésité chez les adultes, mais aussi chez les enfants, ces cas vont exploser. Ils vont avoir de plus en plus d'enfants atteints par un diabète de type 2, de plus en plus jeunes.
Merci beaucoup Stéphane Besançon pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako. On arrive à la conclusion de notre échange, docteur Laurent Fidalgo. Tout à l'heure, on a parlé donc de ces changements d'habitudes alimentaires, changements aussi d'activité, regard sur soi, motivation. Maintenant, si on parlait du changement du rapport des autres, de l'entourage, de leur regard sur les personnes en surpoids, peut-être aussi que ça peut aider, ça peut contribuer à cette fameuse motivation.
Alors,
on parle de grossophobie, par exemple, aujourd'hui, dans certains médias, de dire ce rapport aux personnes en surpoids, un rejet de société, une stigmatisation. J'imagine que les enfants qui viennent en consultation vous parlent de cette souffrance personnelle du regard des autres.
Bien sûr, c'est même souvent dramatique et ça mène vraiment à des troubles psychologiques très importants chez l'enfant. Mais tout à l'heure, vous voyez, on a entendu un témoignage de notre consoeur au Bénin qui disait que la grossophilie, finalement, ça n'arrange pas non plus les choses, puisque même dans un pays où le fait d'être joufflu est bien portante ou grosse est plutôt un critère positif. Donc, il n'y a pas de relation entre le regard des autres et le traitement et la prise en charge. Mais, en revanche, sur la souffrance, évidemment, bien sûr, il faut absolument prendre cette souffrance en considération et surtout que cette souffrance va accélérer et voire aggraver le problème d'obésité.
Et si vous aviez un message en conclusion à faire passer en termes de prévention, vous diriez quoi à ceux et à celles qui nous écoutent ?
Justement, c'est en termes de prévention qu'il faut absolument agir. Plus tôt on agit et mieux c'est. Et voire même avoir conscience que quand on est soi-même en surpoids ou obèse et qu'on fait un enfant, on aura multiplié par 4 le risque d'obésité de l'enfant. Donc prendre très très vite. Et moi, les chiffres sont importants à dire. C'est qu'un enfant qui est obèse à 6 ans sera quasiment de manière certaine un adulte obèse. Donc il faut vraiment agir avant 6 ans.
Allez, de façon précoce. Docteur Laurent Fidalgo, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. 7 000...